les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour, on se retrouve sur Principe Actif pour parler de politique avec les élèves du collège Henri Dunant. Joanne, Cilia, Jules, Fauzi, Serge, Yanis, Baptiste, Mathis, Stanley et moi-même, Corentin.
Dans cette émission, on va interviewer le président de l'association AL2E, Alain Bompard, professeur d'histoire géo et de MC, et on écoutera le micro-trottoir enregistré au collège Henri Dunant et dans les rues d'Évreux.
Si on vous dit politique, à quoi vous pensez ?
Alors, si on parle de politique, je pense tout de suite à comment gérer la France.
Macron.
À rien.
Je pense à la démocratie.
Galère.
Je sais pas. État.
Comment ?
État.
Et vous, monsieur ?
Galère.
Politique ? Bah, président, tout ce qui est comme ça.
Bah, qu'il pourrait y avoir des personnes un peu plus réfléchies ou un peu plus. Vraiment au niveau des personnes qui sont qui ont des salaires beaucoup plus bas que les leurs et puis qu'il y a bien des choses à changer.
Politique, à quoi vous pensez ?
Politique, ça me ferait penser président. Est-ce qu'il faut répondre à un seul mot ou vous voulez une phrase ?
Non,
c'est bon.
C'est bon ? Vote. Je pense à vote.
Si on me dit politique, à quoi je pense ? Bah... Au gilet jaune en ce moment. Voilà.
Politique ? J'ai dû attendre l'âge de 30 ans pour savoir que ça voulait... c'était pas magouilleur. Je croyais, si j'avais pris un dictionnaire, que politique, c'était synonyme de magouilleur. On disait politicard parce que ça avait une belle cravate. Voilà. Alors, bon, mais normalement, c'est gérer un pays.
Politique, à quoi je pense ? Je pense au pouvoir des gens sur la société, il y a des politiques qui font les choses pour eux-mêmes, hein. Voilà. Puis il y a vraiment des politiques qui essayent de faire quelque chose pour la société. Donc en politique, moi, j'aurais plutôt tendance à penser ça. Voilà. Je veux pas être médisant.
Je pense à la démocratie. Je sais pas, Macron, Emmanuel Macron, quoi.
À Emmanuel Macron.
Si on vous dit politique, à quoi pensez-vous ?
À rien.
Politique. Moi, je pense pas aux politiques.
D'accord.
Mais je sais pas du tout.
Pas grand-chose.
Débat national ?
Nous sommes avec Madame Bompard, professeure d'histoire géo, éducation morale et civique. Bonjour à vous. Comment est née la politique ?
La politique, finalement, elle est née dès que les hommes ont vécu ensemble, parce qu'il a fallu fixer des règles communes. Et pour fixer les règles communes, qui est-ce qui fixe les règles communes ? Donc on a désigné des gens qui allaient devoir prendre les décisions à la place de tous les hommes. C'est comme ça qu'est née la politique. Comment ? Parce qu'on serait tout seul sur une île déserte. Pas besoin de politique, pas besoin de règles, pas besoin de lois. Alors qu'à partir du moment où on vit à plusieurs, on va fixer des règles communes et on va fixer des gens qui vont prendre les décisions en notre nom. Et on va les choisir. Comment on les choisit ? Alors, dans l'Antiquité grecque, on tirait au sort pour savoir qui est-ce qui allait diriger le pays. Et dans certains pays grecs. D'accord ? Donc, dans l'Antiquité. Puis après, progressivement, on a évolué.
À quoi sert la politique ?
La politique, si tu prends l'étymologie, ça vient de polis, ça veut dire la cité, la ville. C'est-à-dire, la politique, c'est ceux qui vont être chargés, finalement, de prendre les bonnes décisions qui sont pour le bien de tous et qui permettent de vivre ensemble. Et donc, du coup, ils vont prendre ils vont faire des lois, ils vont proposer des lois, ils vont proposer des solutions pour qu'on vive mieux ensemble. Mais c'est difficile, la politique.
Quel est le rôle d'un maire ?
Alors un maire, lui, il dirige une commune, d'abord c'est un élu, hein. Il est élu pour 6 ans, Et contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas élu directement par les citoyens. C'est le conseil municipal qui l'élit après l'élection du conseil municipal. Il désigne leur maire. Et le maire, bah, c'est lui qui va diriger la commune. Hein. C'est un peu le président, entre guillemets, de la commune. Mais ce n'est pas comme le président de la République qui dirige tout le pays. Lui, il va prendre les décisions pour sa ville, sa commune. Et bien entendu, il va le prendre en prenant l'avis des gens. Et il va aussi être obligé de présenter un budget. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a gagné avec les impôts? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on dépense pour construire une piscine? Ou est-ce qu'on dépense pour refaire un collège? Ou plutôt un autre, etc. Donc le maire, il va prendre des décisions. Alors, quand c'est le maire, il ne prendra pas les décisions pour le collège. Le maire, lui, va s'occuper de tout ce qui est école primaire, école maternelle. Et donc, il va prendre toutes ces décisions. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on récolte avec les impôts? Est-ce qu'on décide de mettre... des nouveaux logements sociaux pour que les gens qui soient pauvres, ils peuvent vivre au centre-ville. Ou est-ce qu'à l'inverse, on crée des nouvelles routes, des nouveaux stades de foot, dans quel quartier on va choisir, etc. Donc ils prennent toutes ces décisions-là. Mais ils le prennent, hein, finalement, dans le cadre du conseil municipal.
Quel est le rôle d'un sénateur ?
Alors un sénateur, lui, il va avoir, il fait partie, donc il est un sénateur, il est élu lui aussi pour 6 ans au Sénat, et le Sénat, avec l'Assemblée nationale, c'est eux qui votent les lois. C'est-à-dire, ils vont discuter des lois, donc le gouvernement, il va proposer des lois, d'accord ? Et ces lois, elles vont être discutées par les députés et les sénateurs. Ils discutent chacun leur tour, donc les députés, ils discutent à l'Assemblée nationale, ils disent s'ils sont d'accord, pas d'accord, s'ils veulent changer des choses, rajouter des choses, supprimer des choses. Et après, le projet de loi qu'ils ont, ils vont le transmettre aux sénateurs. Et les sénateurs, ils vont faire la même chose. Ils vont voir la loi d'origine, ils vont voir les modifications qu'ont proposées les députés, ils vont dire c'est bien, c'est pas bien. Ils vont rajouter des choses, ils vont modifier. Mais à la fin, si les sénateurs et les députés ne sont pas d'accord sur la loi, tu sais qui a le dernier mot ? C'est les députés. Et tu sais pourquoi les députés, ils ont le dessus sur les sénateurs ?
Non.
Bah parce que les députés, ils sont élus directement par les citoyens. Alors que les sénateurs, ils sont élus au suffrage universel, mais indirect. C'est-à-dire qu'on a les citoyens qui élisent les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux. Et après, tous ces conseillers-là, en collège, ils élisent les sénateurs. Donc c'est indirect, c'est plus indirect. Donc du coup, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot.
Quel est le rôle d'un ministre ?
Eh bien, un ministre, déjà, il va être ministre de quelque chose. Il va être ministre de l'agriculture, il va être ministre de l'économie, il va être ministre de l'intérieur, garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la justice. Eh bien, lui, il va être en charge de la politique du gouvernement dans un domaine bien particulier. Et donc il va, lui, essayer de voir, ben, comment, s'il est ministre de l'agriculture, quelle loi je peux proposer aux députés, aux sénateurs, pour que l'agriculture française, elle aille mieux. D'accord ? Donc, il va mener la politique, prendre des décisions dans des domaines bien précis.
Quel est le rôle du président de la République ?
Alors, en France, le président de la République, il a beaucoup de pouvoir. Parce qu'il est, le chef de l'État, le chef des armées. Et du coup, il va nommer, il va choisir le Premier ministre, donc le chef du gouvernement. Mais finalement, le Premier ministre, il va être finalement le relais de ce que veut le président de la République. Et il va gouverner en écoutant le président de la République. Alors, il est obligé d'écouter le président de la République. Et si le président de la République n'est pas content d'un Premier ministre, il peut lui proposer d'aller ailleurs et changer de Premier ministre. Donc c'est quand même lui. Mais c'est vraiment lui le chef de l'État. Il a beaucoup de pouvoir. En France, on dit souvent que le président de la République, il est un petit peu comme un roi. Mais on a été longtemps une monarchie, hein. C'est pour ça.
Hein. Comment sont votées les lois ?
Eh bien, les lois, comme je t'ai expliqué, elles sont présentées, proposées par le gouvernement la plupart du temps. Et ensuite, après, elles vont être discutées par l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale et par les sénateurs du Sénat. Ils discutent les lois, ils les changent, ils les modifient et puis à la fin, ils votent. Ils disent pour laquelle ils préfèrent. Donc, l'Assemblée nationale, c'est elle qui aura le dernier mot, c'est eux qui votent les lois.
Depuis quand on peut voter ?
Depuis quand on peut voter ? Alors, si tu parles dans le monde, dès l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on vote dès l'Antiquité, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps. Hein. Et on vote pour élire ses représentants depuis très longtemps. Après, par contre, tout le monde n'a pas le droit de vote dès le début. Au début... Il n'y a que les hommes qui ont le droit de voter. Et au début, il n'y a que les hommes qui sont riches qui ont le droit de voter. Et puis après, on va avoir progressivement, on va dire, voilà, tous les hommes ont le droit de vote. Par exemple, en France, en 1848, on dit tous les hommes, ils ont maintenant le droit de vote. Qu'ils soient riches ou pauvres, ils ont tous le droit de vote. Et puis après, il faut attendre 1944. C'est-à-dire que les hommes ont tous le droit de vote, qu'ils soient riches ou pauvres en France, 1848. Et pour que les femmes aient elles aussi le droit de vote en France, il faut attendre 1944. Presque 100 ans. Vous voyez qu'il a fallu longtemps pour donner le droit de vote aux femmes. Très longtemps.
Et pourquoi voter ?
Pourquoi voter ? Ben, déjà, moi, si je suis une femme, j'ai attendu 1944 que les femmes aient le droit de vote. Ça me semble important. Si les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote, c'est pour pas aller voter. Après aussi, c'est pour... dans une démocratie, tu sais, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui décide. Démocratie, ça veut dire démos, en grec, le peuple. Kratos qui a le pouvoir. Donc si le peuple, il a le pouvoir parce qu'il donne son opinion en allant voter. Et moi, je vais pouvoir donner mon opinion. Des fois, il n'y a personne qui me plaît. Mais je vais quand même voter. Je vais voter et puis je vais voter blanc. Je vais voter blanc. Si je ne suis pas d'accord avec personne. S'il y a aucun... Des fois, il y a un candidat qui me plaît. Je me dis, oh, bah, celui-là, il est mieux que celui-là. Des fois, je dis, oh, celui-là, je ne l'aime pas du tout. Je préfère aller voter pour lui que j'aime moyen. Parce que celui-là, je l'aime pas du tout. Voter, c'est pouvoir dire son opinion. Et c'est pouvoir être écouté. Parce que si les Français, ils votent majoritairement pour quelqu'un, il est élu. Hein. Au contraire, si on vote pas, après, on se retrouve avec un gouvernement qu'on n'aime pas, on se retrouve avec un Premier ministre qu'on n'aime pas, on se retrouve avec des lois que vont proposer le Premier ministre et qui vont être votées par les gouvernements, les députés, les sénateurs, qui nous plaisent pas. Alors après, on peut plus se plaindre. Hein. Alors que si on a été voté, on peut se plaindre des lois qui sont votées en disant « Ah, il avait promis ça, il a pas fait ça. » Alors que si on reste chez soi... Devant sa PSP, c'est pas terrible. Hein.
Merci à vous, Madame Bompard, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous de les avoir posées.
Athènes frontière, Athènes vieille, je te pense, donc je frappe. Ne jamais placer son tibia près des profilés. Je pense, donc je frappe. Descendre les champs martyrisés. Je pense, donc je frappe. Avec des bouts de foie, tromper les vautours. Je pense donc je frappe. Garez-vous des atlas, méfiez-vous des Sisyphes. Je pense donc je frappe, impuissant et outrecuidant. Je pense donc je frappe, Alcibiade, goudronné au rouleau compresseur. Je pense Platon, donc je frappe, je rêve Échille, Homère. Mère divin, la mère vineuse. Elle frappe, donc je frappe. Te mutiler à terre et te faire enfin mienne. Je pense ta démocratie, donc je frappe. Athéna la mielleuse, l'America l'esclava gratte. Je pense donc je frappe. Athéna mimitée, quasi menteuse. Je qui bat le tambour, je chante une mémoire anesthésiée. Cependant, j'écoute, je pense le ressac de l'univers, et mes oreilles qu'Athènes ressuscite. Mais je frappe toujours la mer. Elle me frappe, la mer démocratie viciée. la rompue, la corruptrice, l'accord. La divine Athéna me frappe. Tu penses donc tu cherches si loin, trop loin. Frapper, frappe, je frapperai à ta porte et sans majuscule, destinée. On pense, on frappe. Pas très bien. Trop loin.
À quoi ça sert la politique ?
À remettre les droits dans l'ordre.
Alors, apparemment, normalement, bien que je n'y connaisse pas grand-chose ou que je m'y intéresse que de loin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'écœurent, certainement à régler les... à diriger un pays, normalement, mais pour que tout le monde y trouve son compte. Et puis malheureusement, on s'aperçoit qu'on est pourtant au 21e siècle et... Il y a beaucoup de gens dans la rue, il y a beaucoup de gens malheureux, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi vivre, et voilà.
À quoi ça sert la politique ?
À justement permettre à chacun de dire et de penser ce qu'il a à dire pour le bien-être de son pays.
Bah, à diriger un pays.
Je sais pas.
À diriger le monde.
À faire des lois.
À quoi ça sert pour toi la politique ?
À gagner de l'argent.
La politique, ça permet d'avoir un cadre et puis d'être gouverné, que tout le monde ait le même chef, si on peut dire. Donc en France, vu que c'est une république, donc nous, c'est le président. Et donc la politique, voilà, ça permet un peu de gouverner l'ensemble.
À quoi sert la politique ? Normalement, à régir tout ce qui est en France, c'est-à-dire toutes les infrastructures et tout structuré. Pour moi, c'est ça, la politique.
C'est tous voilà. Des magouilleurs, mais il y en a des mieux que d'autres. Il vaut mieux quand même gérer dans le meilleur sens, comme vous l'entendez. Donc, il vaut mieux aller voter.
D'après vous, ça sert à quoi la politique ?
Ça sert, à émettre des règles dans un pays et pour qu'on puisse tous avoir les mêmes règles et qu'il n'y ait du coup pas d'injustice envers les uns.
Ça sert à... Je ne sais pas.
À quoi ça sert la politique ?
La politique, ça sert à gérer le peuple, les citoyens.
À quoi ça sert la politique ?
Pas grand-chose non plus, parce que ça ne bouge pas. On vote. Les gens qui ne votent pas, ils ont des sanctions, mais il n'y a rien de tel. Mais il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui va.
Ça sert, à faire des textes de loi qui sont pas toujours respectés, on va dire. Donc.
La politique, c'est censé faire vivre le plus justement possible tous les citoyens, en fait. C'est-à-dire qu'on est censé apporter une harmonie, en fait, entre toute forme de citoyens.
Nous recevons Lucas Ozo, qui est président de l'association AL2E. Bonjour à vous.
Bonjour.
Quel est le rôle d'un président d'association ?
Une vaste question. Tout d'abord, je veux vous remercier de me recevoir sur votre émission. Cet entretien, j'espère, vous donnera l'envie de venir vers la L2E pour découvrir un petit peu toutes les activités, toutes les missions qui sont celles d'une amicale comme l'amicale laïque d'Evreux-Est. Alors, pour revenir à la question, c'est quoi le rôle d'un président d'association ? D'abord, c'est un rôle de supervision sur tout ce qui se fait au sein de l'amicale, aussi bien auprès des jeunes, à travers les actions jeunes qui sont mises en œuvre par des professionnels, alors là, de l'animation, auprès des familles, actions mises en œuvre par des professionnels de l'accueil des familles et de l'orientation des familles, mais c'est aussi un rôle de mise à disposition d'activités diverses et variées vers les habitants du secteur de compétences de l'association et puis vers les adhérents déjà de l'association. C'est-à-dire qu'on peut avoir des activités qui sont à évolution, sachant que dans une association de ce type, la main est donnée, la parole est donnée assez largement aux habitants du quartier et aux adhérents de l'association pour bâtir leur projet. L'autre rôle important, c'est un rôle de représentation auprès des institutions qui nous accompagnent, aussi bien dans la construction de la structure, dans la structuration de l'amicale, que dans le financement, bien sûr, puisque majoritairement, on fonctionne quand même avec des fonds publics. Et donc, il y a un rôle important qui est la représentation du conseil d'administration vers ces institutions.
Pourquoi avez-vous voulu vous engager dans le monde associatif ?
Ah, ça, c'est une longue histoire, en fait. Moi, j'ai été élevé dans le secteur d'Evreux-Est, qui est le secteur d'influence de l'amicale. Pour être très précis, j'ai été élevé au pied de la tour Bayot, si vous connaissez un petit peu le secteur. Donc, de tout temps, j'ai vécu dans ce périmètre du Clos-au-Duc, de Netreville. Et donc, voilà, j'ai souhaité m'investir dans la vie de ce secteur. Bon, il se trouvait que sur le Clos-au-Duc, il y avait une association qui était l'association du Clos-au-Duc. Donc, j'ai commencé à m'investir dans le conseil d'administration de cette structure. Et puis, il y a 4 ans à peu près, l'idée est venue de rapprocher les deux quartiers et de définir un projet social sur l'ensemble des deux quartiers de Netreville et du Clos-au-Duc. Et dans le coup, on a travaillé autour de la fusion des tissus associatifs qui étaient présents sur le secteur. Et deux associations ont fusionné, l'association laïque d'Evreux-Netreville, d'un côté, et de l'autre côté, l'association du Clos-au-Duc, et ça a donné donc à L2E. Donc en fait, c'est une longue histoire, un investissement qui vient de loin. Je pense que la vraie motivation, c'est qu'il faut être à l'écoute des gens, à l'écoute des habitants, pour essayer de transformer leur parole en projet et de les aider à mettre en œuvre ces projets.
Pourquoi avez-vous choisi d'être président ?
C'est pas vraiment un choix d'être président. Le choix est de s'investir dans la gestion de la structure. Et il se trouve que, comme toute amicale, comme toute association, l'amicale est structurée autour... le point de départ, c'est une assemblée générale, naturellement. La prochaine assemblée générale a lieu le 28 mars d'ailleurs, prochain, donc la semaine prochaine, fin de cette semaine. Ensuite, de cette assemblée générale, à l'issue de cette assemblée générale, on constitue un conseil d'administration. Et dans le conseil d'administration, il y a des élections où on vote pour un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire, ce qui est la structure de base. De toute association. Bon, et là, dans le tour de table, il y a des gens qui souhaitent pas prendre des responsabilités de gestion, et il y en a d'autres qui sont plus à même de le faire. Donc voilà comment ça se passe. Hein. Mais c'est pas, on se lève pas un matin en disant tiens, je vais être président de l'association. C'est l'effet induit d'un engagement de longue date.
Quel est le projet de l'association ?
Okay. Ah, le projet de l'association... un projet d'association, ça se définit et ça s'inscrit dans des statuts, déjà. C'est le premier point. Le projet, c'est quasiment l'objectif de l'association. L'objectif de l'association, c'est d'assurer sur le secteur d'Evreux-Est, enfin en l'occurrence, là, pour AL2E, c'est d'assurer sur le secteur d'Evreux-Est une animation globale, plutôt à vocation sociale, vers l'ensemble des habitants. Ça, c'est l'objectif principal. Après, il y a des objectifs opérationnels. L'objectif opérationnel, c'est d'assurer, de proposer aux habitants, aux adhérents, un certain nombre d'activités Et un des objectifs opérationnels, c'est aussi d'aller chercher auprès des institutions un certain nombre d'agréments qui nous donnent la possibilité d'accompagner socialement l'ensemble des habitants à travers des thèmes comme la parentalité, l'accueil des jeunes, l'accès à l'emploi, l'orientation vers la santé. Et donc, pour assurer ces missions-là, il faut qu'on aille chercher un agrément qui s'appelle un agrément de centre social, et on va le chercher auprès de la caisse d'allocation familiale. Et là, on est en plein dans la réalisation de cet objectif, puisque le directeur Yann Lemarié est en train d'actualiser un diagnostic de territoire, et de ce diagnostic de territoire, il pourra dire, bon ben voilà, il pourra écrire un projet social. Et c'est ce projet social qui nous permettra d'obtenir l'agrément de la CAF.
À quoi sert une association ?
Ça sert principalement, je pense, à fédérer des énergies. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, une association du type amicale, comme l'Amicale laïque d'Évreux-Est, c'est d'aller chercher les envies, les souhaits des habitants et des adhérents, et d'examiner la faisabilité de leur projet, et puis d'essayer d'aligner les planètes, si je peux dire, pour que le projet soit réalisable dans les meilleures conditions, et d'aller chercher les ressources techniques, financières et ainsi de suite pour aider à la réalisation du projet. Ça nécessite, on le comprend bien, un engagement, même si parfois il est bénévole, un engagement des habitants et un engagement de toutes les catégories familiales, professionnelles, enfin toutes les catégories de personnes qui souhaitent s'engager dans la vie de l'association.
Qu'est-ce qu'un centre social ?
Alors, j'ai un petit peu répondu à la... En fait, un centre social, c'est une structure qui est intégrée à l'amicale et dont l'objectif est d'accompagner les familles, les jeunes et de faire de l'animation vie locale. Voilà. C'est de faire de l'animation à vocation sociale au sein du secteur.
Comment fonctionne l'association ?
Alors, deux volets, je pense, sont à développer là-dessus. Sur cette question, il y a le volet orientation de l'amicale, que je qualifierais de l'orientation politique un petit peu de l'amicale. Ça, c'est assuré par les instances de décision. J'ai parlé de l'Assemblée Générale tout à l'heure, j'ai parlé du Conseil d'Administration, j'ai parlé du Bureau. Donc tout ça, c'est les actes de gestion qui sont assurés strictement par des bénévoles. Et puis, il y a les techniciens. Alors, les techniciens, c'est le directeur du centre social, les animateurs du secteur jeunesse, les animateurs du secteur famille, les animateurs qui portent les actions à vocation de loisirs, tout simplement, qui, du fait de leur professionnalisme, donnent du sens à la découverte d'activités, à la découverte d'actions, et qui permettent aux habitants de donner du sens à son projet. Donc, en fait, un volet politique, plutôt, et un volet technique, qui alimente et qui va chercher les ressources nécessaires pour développer les projets.
Quelles sont ces activités ?
Alors là, ça va être compliqué que je dresse une liste exhaustive des activités, parce que en tout, AL2E, c'est une quarantaine de salariés. Alors, qui ne sont pas tous à temps plein, mais qui sont des salariés qui prennent du temps pour animer une activité. Je crois qu'il y a 32 activités de loisirs Et puis, il y a une multitude d'activités autour des de la jeunesse qui sont mises en place et qui sont élaborées, qui sont construites par des jeunes avant les vacances scolaires, par exemple, ou pour chaque mercredi, ou pour... Voilà. C'est très variable, le nombre d'activités. On ne peut pas répondre à la question en disant il y a X activités qui sont proposées. Je dois préciser qu'on est en train de mettre en place, et ça, ça me paraît très très important pour vous, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un comité de jeunes. C'est-à-dire que le conseil d'administration a validé le principe de la mise en place d'un comité de jeunes. Comité de jeunes, l'objectif, c'est qu'un salarié, un animateur, un référent de secteur, puisse accompagner un groupe de jeunes identifiés au départ pour définir des idées de jeunes. Et ces idées de jeunes, dès lors qu'elles seront validées par le conseil d'administration de l'association, pourront trouver un sens et seront bâties par ce comité de jeunes. Donc si vous souhaitez participer à ce comité de jeunes, je vous engage à prendre contact avec Rodolphe Bourgeois et puis Mohamed Sissoko qui est en tant que... le nom m'échappe pour l'instant, mais ça va me revenir tout à l'heure, va accompagner le service civique, voilà, c'est ça, qui en tant que service civique va accompagner la mise en place de ce comité de jeunes. Dans la vie, enfin, moi je considère que c'est dans la vie, il n'y a pas de questions taboues. On a l'habitude de dire il n'y a pas de questions bêtes, voilà. Il n'y a pas de questions taboues et j'ai l'impression que les jeunes sont un peu sur la réserve quand il s'agit d'aller se confronter au monde des adultes, un peu. On sait bien que il y a des propositions de jeunes qui ne pourront jamais aboutir parce que les moyens dont on dispose ne permettent pas de les faire aboutir, tout simplement, soit en moyens humains, soit en moyens financiers, puisque c'est quand même le financement qui est un peu le nerf de la guerre dans tout ça. Mais au moins qu'ils viennent exprimer qui trouvent un relais pour pouvoir exprimer ce dont ils ont envie. Après, ils tomberont sur des animateurs, des éducs qui leur diront « Attends, ton idée, ça me paraît compliqué. Ceci dit, on peut s'y pencher, on peut regarder. » Et le rôle de l'animateur et de l'éduc, c'est de démontrer aux jeunes que ce qui est possible, de l'aider dans le franchissement d'étapes qui peuvent constituer un frein pour la réalisation de l'idée. Mais il faut absolument qu'ils passent ce cap de dire « Ouais, je ne vais pas aller en parler parce que c'est peut-être complètement loufoque ce que j'ai dans la tête, donc je préfère ne pas en parler. » Là, on est en train d'essayer d'approcher justement les jeunes du collège Henri Dunant en bossant avec l'équipe éducative, avec Madame Lefebvre, qui est la principale du collège, pour que, à travers ce centre social, on développe des activités autour de la musique, autour du théâtre, autour, enfin bon, que sais-je. Nous, l'idée, c'est d'ouvrir les portes du centre social, que les jeunes puissent sortir du collège pour aller pratiquer une activité en dehors du collège, qu'ils soient pris en charge par des animateurs et qu'ils voient le sens qu'on peut donner à tel ou tel projet.
Merci à vous, Lucas Ozu. Je rappelle que vous êtes président de l'association L2E.
Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu pour ces questionnements.
À la prochaine.
À bientôt.
Ça sert à quoi de voter, d'après toi?
Pour élire un président ou un maire.
Pas si terrible que ça.
Un vote est très important. C'est ce qui permet effectivement à tous les citoyens de France de pouvoir dire ce qu'il a à dire.
Que pensez-vous du vote?
Les votes, c'est pour avancer, c'est pour arriver à une idée précise pour tout le monde, pour que tout le monde soit d'accord.
Je vote, j'avoue, mais
Des fois, je vote par défaut. Je ne sais pas comment on peut dire autrement, parce que quand j'entends certains discours justement de ces hommes politiques ou leur façon de parler ou la vision qu'ils ont de nous, les petits, on va dire, parce que je m'y mets, puisque je suis une petite retraitée qui est dans un logement social, eh bien, je me dis, est-ce qu'ils se rendent bien compte et pour qui voter? J'en suis là et, comme je le disais, c'est plutôt par défaut que par autre chose.
Que pensez-vous du vote?
Ça dépend lequel?
C'est un acte citoyen.
Que pensez-vous du vote?
C'est nul.
Voter sert à élire un membre du gouvernement.
Du vote? Ah, le vote, c'est quoi? J'ai voté deux fois dans ma vie, mais pour l'instant, ça sert à rien.
Oui, je crois que c'est quand même normal. Mais des fois, on n'a pas envie de voter. Hein. Des fois, c'est ni l'un ni l'autre. Il y en a, ils gagnent avec 10% des voix, si on regarde bien. Il n'y a pas de quoi faire le grand V de la grande victoire. Hein. Voilà. Et ils ont intérêt à raser les trottoirs et pas trop embêter.
Que pensez-vous du vote?
Alors, le vote, ça permet que chacun puisse exprimer une opinion, une idée, donc soit avec le référendum ou alors, par exemple, lors des élections.
Alors, voilà, moi, je trouve que c'est bien. Les gens se sont battus en 1936, je crois, pour avoir le droit de vote. C'est une bonne chose. Personnellement, je vote pas. Parce que j'ai voté à droite, j'ai voté à gauche, j'ai revoté à droite, j'ai revoté à gauche. C'était la même galère. Par conséquent, je vote pas. Parce qu'ils ont les mêmes comportements. Ils disent beaucoup de choses et ils font pas. Ils promettent, ouais, moi je vais prendre telle décision, etc. Même, pourtant on est en crise là, hein. Je vais prendre telle décision. Bon, il y a des fois où ils prennent les décisions, mais ça nous coûte de l'argent, puisque maintenant on a une dette pas possible. Hein. Ils empruntent au FMI, ils disent voilà, les policiers, voilà pour les instits, voilà machin. Mais bon, on a une dette qui monte. Et là, maintenant, on doit l'équivalent par personne. On doit l'équivalent d'une Golf GTI. Alors, par personne, hein. Même ceux qui viennent de naître, le bébé, il est là en train de pleurer dans son lit. Il doit une Golf GTI, tu vois. Donc, voilà.
Que pensez-vous du vote?
Je pense que c'est très bien de pouvoir voter. Et il faut voter. Vous, en tant que jeune adulte, il va falloir aussi vous poser la question de est-ce qu'il faut aller voter?
Que pensez-vous du vote?
Bah moi je dis faut que tout le monde vote, même les plus petits, enfin sauf les bébés bien sûr.
Mais ce serait bien si c'était moins stressant, quoi, s'il n'y avait qu'un vote par an, au lieu d'en avoir plusieurs, et que ce soit pour les élus, les municipales, le président, qui ne sert à rien.
À quoi ça sert de voter? Ça sert à voir quel président représentera la France.
Du vote? Bah le vote il est important quand même. Après, chacun vote pour qui il veut, mais il est important de voter, par contre.
Ouais. Il n'est pas assez... C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens qui votent. C'est-à-dire que les gens ne sont pas suffisamment impliqués dans le vote aujourd'hui. Peu importe le type d'élection, il n'y a pas assez de votants.
Pourquoi vote-t-on?
Pour qu'on fasse la part.
Ok, merci. Mais,
le vote... Bah, c'est bien. Parce que c'est un droit.
On vote pour le bien du pays.
Bonne question.
Parce qu'on est citoyen.
Bah parce qu'il faut... Bah on essaie de gérer... C'est nous, les citoyens. C'est nous qui gérons le pays, finalement. Ensuite, on en a un président. Hein, ouais. Et bon, puis on essaie de faire au mieux. Hein. J'ai pas dit que c'était parfait. Hein. Voilà. Ok. Okay.
Merci,
okay. Monsieur.
Merci, monsieur.
Au revoir.
Bon après-midi.
Pourquoi on vote?
Bah pour avoir nos droits, avoir des choses, pour avoir des aides, pour les gens qui sont démunis, enfin, avoir quelque chose de bien pour qu'on puisse s'en sortir, nous.
Bah, je suis pas d'accord.
Pourquoi on vote? Bah, pour élire le président de la République.
Bah, pour être censé être représenté. Par des hommes et des femmes qui nous gouvernent, donc voilà.
Nous étions avec Lucas Ozu qui est président de la L2E et Madame Bompard qui est professeure de histoire, géo et EMC accompagnée des élèves de la région
qui sont Joanne, Corentin, Célia, Fauzi, Jules, Mathis, Serge, Stanley, Baptiste, Yanis. Merci de nous avoir écoutés.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.